Bonsoir et bienvenue dans cette émission, 18 février 2006, 18 février 2026, 20 ans jour pour jour depuis la mise en application de la Constitution de la République démocratique du Congo, adoptée par référendum et promulguée sous le régime de Joseph Kabila, ancien président de la République. Ceci marque le début de la Troisième République. La Constitution de 2006 compte 229 articles répartis dans 10 titres des principes fondamentaux. En 2011, la première révision constitutionnelle est intervenue, toujours sous le régime de Joseph Kabila. Elle a notamment modifié les modes d'élection du président de la République, passant du scrutin de 2 tours à 1 scrutin à 1 seul tour. Chose qui a suscité des critiques dans les camps de l'opposition et d'autres analystes politiques. En octobre 2024, le président Félix Tshisekedi a annoncé depuis Kisangani la nécessité d'une nouvelle réforme constitutionnelle en insistant sur une constitution élaborée par les Congolais et tenant compte des réalités congolaises. Quelle évaluation faire de l'application de la constitution de la RDC 20 ans après sa promulgation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission en ligne Taylor Lubanga. Il est professeur, il est député national et chargé des missions du chef de l'État. Il est également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Bonsoir professeur Taylor Lubanga.
Bonsoir monsieur le journaliste.
En ligne également.
Et bonsoir à tous les auditeurs.
En ligne également, Clément Mouza, il est avocat, il est secrétaire national chargé de l'État, des droits et justice du parti politique SID, parti membre de l'opposition. Bonsoir, maître Clément Mouza.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et aussi en ligne, Paul Gaspard Ngonanko, il est professeur des droits constitutionnels à l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur Paul Gaspard Ngonanko.
Bonsoir Guy Maté, je salue Maître Claude ainsi que le double collègue Lubanga.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le 18 février 2006, la Constitution de la République démocratique du Congo célèbre son 20e anniversaire. Promulguée en 2006 par l'ancien président Joseph Kabila après un référendum populaire, elle marque la naissance de la Troisième République. Le président Félix Tshisekedi a exprimé dès fin 2024 sa volonté de doter le pays d'une nouvelle constitution, jugeant les textes de 2006 inadaptés et rédigés à l'étranger. En 20 ans, le texte n'a connu qu'une seule révision majeure. En 2011, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, salue une constitution qui a permis d'asseoir la démocratie en RDC. On l'écoute.
Une seule modification à 20 ans, je crois que nous devons beaucoup nous féliciter, surtout nous, les disciples de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, parce que j'étais un regard historique sur notre pays, sur la politique, c'est que aucune constitution qui envisageait d'asseoir la démocratie et l'état des droits dans notre pays n'a prospéré. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la seule qui a prospéré pour être âgée de 20 ans aujourd'hui, c'est quand même celle-là que nous avons aujourd'hui. Et chaque fois, félicitations donc à la maturité politique aussi de ce peuple, parce que chaque fois qu'un dirigeant veut faire ce qu'il veut de cette constitution, il trouve toujours une barrière de ce constitutionnalisme congolais qui a l'article 220 qui a interdit la révision de certaines dispositions qui sont le socle même de la démocratie dans notre pays, le socle même de l'état de droit.
Pour sa part, le député national honoraire Toumba Tshabola Bintou, cadre de l'UDPS, estime que le contexte de belligérance dans lequel cette constitution a été élaborée demeure l'une des principales faiblesses. Il affirme que 20 ans après, la constitution contient plusieurs écueils qui nécessitent qu'elle soit modifiée ou même changée si les peuples congolais le décident. On l'écoute aussi.
La constitution du 18 février 2006 vient de totaliser 20 ans aujourd'hui. Mais le contexte dans lequel cette constitution fut écrite, personne ne l'ignore. C'était le contexte de la belligérance. Le peuple congolais a tous les droits de réviser ou de changer la constitution. Il faut bien lire l'article 5 de la constitution qui stipule, je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection indirecte par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Ça veut tout dire que personne ne peut empêcher au peuple congolais d'exercer normalement son droit de souveraineté. Donc, le pouvoir émane du peuple. Si le peuple veut garder la constitution, ça mieux. Si le peuple veut le changer, ça ne pose aucun problème. Mais après 20 ans, plusieurs analyses ont montré que notre constitution à des écueils qu'il faut rectifier. Si cela nécessite une révision ou une modification, cela ne posera aucun problème.
Un dossier réalisé par Alain Irong Mouchinge. Professeur Taylor Lubanga, vous êtes député national et chargé des missions du chef de l'État. Vous êtes également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Quelle évaluation vous faites de l'application de la constitution de la RDC 20 ans après sa promulgation?
Merci beaucoup, cher frère, pour la question. Je voudrais profiter de votre antenne pour saluer le collègue aîné, professeur Paul Gaspard Ngondantoy, et l'ami de Décidé, avec lesquels nous allons devoir discuter de la question constitutionnelle sur les enjeux de son application. En effet, il est heureux de noter que la constitution de la RDC, qui est passée par voie référendaire du 18 et 19 décembre 2005, était une réponse à un problème. Le problème de légitimation du pouvoir qui a entraîné des sous-questions de cohésion nationale, mais également de prise à répétition au niveau de la souveraineté du pays. Là, je vois les pays voisins. Et donc, il faut considérer que ce contexte a été totalement réussi avec la Constitution, qui a été une réponse et qui continue à l'être, tout au moins, dans certaines ou dans ses principales articulations. Mais l'on peut se demander utilement si la lecture objective de son application 20 ans après n'appelle-t-elle pas certaines adaptations. Autrement dit, est-ce que cette constitution qui n'est pas une Bible répond-elle à toutes les questions de gouvernance moderne et donc de développement et du statut de ce que vaut la RDC au niveau de la région.
Et s'il faut répondre à cette question, professeur, qu'est-ce que vous diriez?
Et donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, il est nécessaire de regarder la réalité en face et de nous dire que c'est la vérité. Le temps a permis de réaliser les limites des cohérences constitutionnelles et légitime une révision de certaines dispositions capables de nous aider à évoluer. Je prends un petit exemple. Le scrutin d'un président de la République. Comment voulez-vous qu'un chef d'État soit élu par 25% des Congolais et dirige 100% des Congolais, parce que le vote à un seul tour ne permet pas une forte adhésion des électeurs et des légitimations du pouvoir. Comment voulez-vous, mon cher frère et très chers observateurs, que les pays comme le Sénégal aient supprimé le Sénat parce que considéré budgétivore, ayant ainsi les économies des dépenses et des dotations de cette institution en ajoutant en termes de développement l'électrification du pays, et nous continuons à avoir des institutions budgétivores comme le Sénat par exemple, comme le Conseil économique et social, comme cette institution de suivi pour moi des dialogues et tout. Et donc je pense qu'il y a aussi l'élection aujourd'hui, des sénateurs qui posent problème. Il y a des réalités de double nationalité et il faut voir, est-ce qu'il faut-il exclure éternellement les Congolais d'origine qui, pour des raisons économiques ou politiques, se sont vus obligés, disons, de prendre une nouvelle nationalité, d'être considérés comme étrangers. Est-ce que sommes-nous sérieux? Sommes-nous sérieux dans un monde ouvert? Je pense qu'il y a une multitude de questions qui poussent à une réflexion simple, c'est-à-dire la correction des écueils. C'est l'adaptation des normes constitutionnelles qui n'a pas pu résister au temps pour pouvoir lui donner un sens. Alors, pour terminer sur des questions, aucune génération ne peut s'estimer beaucoup plus savante pour lier les sorts de générations futures. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous dire que ce que nous considérons comme cohérent le sera pour nos enfants demain, en considérant comme verrouillé l'intelligence, les textes que nous considérons, nous, capables de gérer la situation de nos enfants de demain, sans nous mettre dans les contextes futuristes pour comprendre ce que demain sera fait. Donc je pense qu'il y a toutes ces configurations théoriques qui convergent et qui consolident la possibilité d'une relecture objective, pas personnalisée, mais de doter ou sinon d'insuffler, n'est-ce pas, les dispositions de la norme constitutionnelle, de nouvelles vertus capables de l'aider à protéger les valeurs qui conviennent et qui peuvent aider, disons, d'effacer les développements et finalement de consolider la souveraineté nationale, parce que n'oubliez pas qu'il faut insérer de nouvelles dispositions, notamment sur la défense. Donc je pense que c'est un débat qui a son sens et qui convient d'être mené avec beaucoup trop de responsabilités.
Oui, professeur, cette constitution consacre la décentralisation en ce qui concerne les provinces, mais 20 ans après, on se rend compte que les provinces continuent à dépendre totalement du pouvoir central. Est-ce que c'est aussi lié aux limites, n'est-ce pas, que présente cette constitution, qui ne serait pas adaptée selon l'UDPS?
Mais Guématé, c'est pas, voilà justement, vous comprenez bien que dans l'application, les mentalités congolaises ne sont pas adaptées à cette disposition. Il faut revenir à cette forme de gestion qui soit compatible. C'est l'une des questions. Il y a la rétrocession qui pose problème. Il y a les rois coulés en province. Il y a des motions alimentaires dirigés contre les exécutifs provinciaux qui n'obéissent pas aux logiques alimentaires des députés. Mais il faut cogiter et voir quelle bonne direction prendre. Nous avons des générations, effectivement, à protéger. Et donc, il faut très, très nettement regarder dans la bonne direction, adapter la constitution à nos mentalités, notamment sur l'action de décentralisation. Pourquoi pas revenir à la territoire des non-originaires, comme nous l'avait légué Mobutu. Donc il y a, pour moi, beaucoup de choses sur lesquelles on doit pouvoir revenir pour nettoyer la constitution, l'insérer dans nos mentalités et surtout l'adapter aux réalités des mondes changeants.
Oui, que répondez-vous à Maître Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui estime que cette constitution de 2006 est une constitution, n'est-ce pas, qui a permis d'asseoir la démocratie en RDC?
Il fait une analyse tout à fait bonne. La constitution a quand même aidé. Tout n'est pas mauvais, comme je l'ai dit. Mais il faut, à un moment donné, se déporter de considérations subjectives et des préjugés pour voir la réalité dans son évolution, pour voir les dispositions qui n'ont pas pu s'adapter à nos mentalités, pour en faire adapter nos mentalités aux dispositions constitutionnelles têtues. Dans des logiques qu'on peut appeler suniféralisantes, l'on peut pouvoir regarder quelles sont les dispositions à corriger pour les combiner aux autres. Et donner ou doter la constitution de cohérence qui convienne. Donc je pense que cette constitution a quand même fait sa bonne route, mais à un moment donné, l'excellence du ministre honoraire Cambéré et député national doit pouvoir comprendre qu'il faut maintenant essayer d'inspecter les dispositions qui n'ont pas bien fonctionné, de réfléchir ensemble dans un climat de paix, comme qui dirait, dans un climat de carême, actuellement, c'est le carême, c'est, ou l'esprit de Pâques, c'est-à-dire l'esprit apaisé, l'esprit de vie du Saint-Esprit, pour éviter l'esprit belliqueux, et penser à une constitution qui puisse être une réponse au problème de gouvernance.
Merci, merci. On donne la parole à Clément Mouza. Clément Mouza, vous êtes avocat, vous êtes secrétaire national chargé de l'état des droits et justice du parti politique SID, parti membre de l'opposition, membre de la coalition Lamouka. Vous également, comment vous évaluez la mise en application de la constitution de 20 ans après?
Ah, ok. Oui, 20 ans après que la République démocratique du Congo ait une constitution que je considère comme rigide, un très bon texte, mais bon, quoique ça soit par moments mal appliqué par ceux qui ont la passerelle du pouvoir, mais sinon 20 ans après, je pense que vous l'avez dit, que cette constitution n'a presque pas subi de révision. La seule révision que nous avons connue, et une révision effective, c'est celle de 2011. Mais aujourd'hui, je pense que il faut considérer cette constitution comme étant une charpente de la République. C'est-à-dire que un document qui existe pour justement structurer l'État. Et mieux, je dirais que c'est vraiment un dénominateur commun pour tous les Congolais, en ce qui concerne toutes les questions de la République, surtout en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de la République démocratique du Congo. Nous connaissons tous les contextes, mais au moins, cette constitution aujourd'hui, c'est en tout cas un compromis, à mon avis, entre les belligérants de l'époque, l'opposition politique, voire même la communauté internationale. Parce que aujourd'hui, 20 ans après, cette constitution a quand même permis à la RDC, notre pays, d'avoir une stabilité au niveau des institutions, voire même de la coexistence, qui, je dirais, pacifique, de plusieurs forces politiques en présence que nous avons connues à l'époque. Vous allez constater par exemple que grâce à cette constitution, aujourd'hui, on peut voir certaines personnalités, que j'étais les noms, qui hier étaient du côté de la rébellion, qu'il s'agisse du RCD ou du MLC, que je cite comme ça. Donc, c'est quand même un document que je considère comme sacré, qui a permis à notre pays d'avoir une certaine stabilité. Donc, aujourd'hui, quand j'entends des gens parler qu'il s'agisse de la révision constitutionnelle ou carrément du changement, bon, je suis heureux que je sois en face du professeur, deux professeurs d'ailleurs, notamment le professeur Lubanga. Lorsqu'il aborde cette question en termes des problèmes qui existent et que ça nécessite notamment la révision sur ce point, personne ne peut contester parce que cette constitution a tout prévu, y compris notamment la révision. Cela est prévu même à l'article 218 de notre constitution. Donc, déjà, le document lui-même prévoit les mécanismes de sa révision. Mais je pense que maintenant là, 20 ans après, parler notamment de la révision de la Constitution, par moment, je dis que ce n'est pas aimer ce pays. Parce que lorsque nous lisons l'article 219 de la Constitution, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour défendre le pays, pour défendre la nation et au terme de l'article 63 de cette même constitution qui nous donne pratiquement un droit et un devoir sacré de défendre la République. Donc, lorsque cette constitution dit, à son article 219, qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Évidemment, il y a une suite, mais s'il faut que je m'arrête à ce niveau, est-ce que nous, Congolais, nous, élites congolaises, en ce moment précis, parce que le débat continue, nous mettons beaucoup d'énergie, si à un moment donné nous avions mis de l'énergie que nous mettons pour cette question, notamment de la révision constitutionnelle, sur la question ou les questions de la défense de la patrie, je pense qu'on aurait pu évoluer. La loi fondamentale, la Constitution est claire sur ces points précis. Peut-être que les gens, et surtout ceux qui ont la passerelle du pouvoir, par rapport à certains appétits du pouvoir, pensent qu'il y a des choses qui peuvent être survolées. Non, nous sommes dans un état de guerre. Et l'état de guerre, en droit, est défini de plusieurs manières. Et l'état de guerre peut exister même à l'absence d'une déclaration de guerre. Maintenant là que la République engage toutes les forces combattantes, l'armée de l'air, les bateaux de guerre, les munitions, tout ça engagé face à, je veux parler en termes même des occupants, ou face à nos agresseurs. Cela est conforme même à la résolution 2773 qui dit deux choses importantes. Un, que les troupes rwandaises quittent immédiatement le sol congolais. Est-ce que nous ne sommes pas dans un état de guerre? Deux, que les Rwandais cessent tout soutien militaire aux forces du M23. Nous ne sommes pas dans ce cas-là dans un état de guerre. Nous sommes dans un état de guerre. Et à ce niveau-là, je pense que la Constitution ne refuse pas la révision. Mais lorsqu'il y a un point précis qui l'interdit, je pense qu'à ce niveau-là déjà, le débat devient inutile. Donc aujourd'hui, je peux quand même m'enorgueillir, en tout cas en ce qui concerne le 20 ans de notre Constitution. C'est un élément important en termes d'architecture de nos institutions. C'est une constitution qui a permis beaucoup de choses, malgré les écueils. Et aujourd'hui, nous pouvons parler des cycles électoraux. Les élections ont été organisées en 2026. En 2018 avec tout ce que nous connaissons comme braquage électoral et ce que nous avons connu en 2023 en termes de simulacres d'élections. Mais s'il faut parler en termes de cycles électoraux, il y a eu des choses que nous devons aujourd'hui chercher à consolider. Nous devons consolider notre démocratie, et surtout post-conflit. Donc, moi, je pense que à ce niveau, je suis vu Maître Kambere, qui attribue cette victoire à M. Joseph Kabila. Non, c'est l'affaire de tout Congolais. Que vous ayez voté dans ce référendum ou pas, c'est aujourd'hui l'affaire de Congolais. Et ça doit être une fierté nationale d'avoir une constitution qui ne bouge pas. Et nous constatons que tous ceux qui cherchent à manipuler la constitution ou à la réviser ou à la changer, vous voyez comment les peuples se tiennent debout pour défendre cette constitution.
Maître donc, Mouza.
Les écueils ne manquent pas. Oui.
Maître Clément Mouza, cette constitution de 2006 que vous qualifiez de bon texte, 20 ans après, vous estimez que certaines modifications peuvent être apportées, mais pas dans un contexte de guerre, parce que c'est pour vous c'est un contexte qui n'est pas prévu ou qui ne s'y prête pas.
Oui, un bon texte.
Un contexte, qui n'est pas indiqué.
Non, le contexte n'est pas indiqué. Nous sommes dans un état de guerre, ça personne ne le conteste. Que vous aimez le M23 ou pas, que vous aimez ou vous soyez derrière les Rwandais ou pas, le contexte est là, nous sommes dans un état de guerre, donc on ne peut pas maintenant parler de la révision de la Constitution. Donc je peux même aller plus loin pour dire que non, la Constitution nous interdit même de parler de la révision pendant que nous sommes dans un état de guerre. Il y a autre chose, c'est l'article 63 qui doit s'appliquer. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent la modifier ou la changer aussi facilement, je pense qu'ils se trompent.
Merci, professeur Gaspard Monaco. Vous êtes professeur des droits constitutionnels à l'Université de Kinshasa. Comment vous évaluez la mise en application de la Constitution de la RDC 20 ans après sa promulgation?
Merci, M. Guy Maté. Il y a deux manières de faire le bilan d'un texte aujourd'hui, d'une constitution. La première manière, c'est de faire ce bilan au regard des critères de son efficacité ou aussi de son efficience. C'est-à-dire, on regarde les objectifs qui lui ont été affichés et on évalue si ces objectifs ont été atteints ou pas. Alors, je n'aime pas trop faire ce genre d'exercice parce que il aboutit souvent à l'impasse parce qu'au final, il y aura toujours quelqu'un qui verra le verre à moitié vide et un autre qui verra le verre à moitié plein. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plus difficile d'avoir un consensus. Il y a aussi parfois des causes qui sont liées au texte lui-même, mais beaucoup de causes sont liées aussi à l'homme congolais. Le texte peut être beau, mais s'il est appliqué par des personnes incompétentes ou de mauvaise foi, ben, il sera toujours critiqué. Mais la deuxième manière d'évaluer un texte juridique comme la Constitution, c'est par rapport à sa cohérence logique. C'est-à-dire à la manière dont on a disposé les dispositions pour que les articles pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui ont été fixés, justement. Et vous le savez, la Constitution de 2006 repose sur ce que la Constitution a appelé au moins 7 préoccupations fondamentales. Donc, par exemple, assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, éviter les conflits, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, etc. Donc, si on veut donc voir si la Constitution a été bien révisée pour atteindre ces objectifs-là, moi je dis que cette Constitution, parmi toutes celles que nous avons connues de 1960, est d'abord est un édifice juridique complet. Elle est un édifice juridique complet parce que d'abord, sur le plan des droits fondamentaux, c'est la constitution la plus généreuse que nous avons. Ensuite, sur le plan de l'organisation et de l'exercice du pouvoir politique, c'est la constitution la plus consensuelle que nous avons depuis 1960. Pourquoi cela?
Donc, pourquoi est-ce que je ne peux le signaler, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la régie ou comment? Je ne sais pas trop.
Maître Moussa, il y a un problème.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, professeur. Maître Moussa, vous intervenez, il y a un problème. On vous rappelle, Maître Moussa. Professeur,
bon, maintenant, allez-y, professeur. Maintenant, là, je sais vous écouter. Oui, je sais vous écouter.
Okay. D'accord. Allez-y, professeur Gaspard Ngonankoy.
Donc, je disais que sur le plan des droits fondamentaux, c'est la constitution la plus généreuse parce qu'elle contient plus d'articles que d'autres sur les droits fondamentaux, sur les droits de l'homme, sur la liberté, mais aussi sur les devoirs. Il y a à peu près une cinquantaine d'articles qui sont consacrés à ces droits fondamentaux, auxquels il faut ajouter les devoirs, évidemment, parmi lesquels un certain nombre de droits qui sont indérogeables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être violés, même si on est pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence, ou même pendant l'état de guerre. Donc ce noyau dur des droits fondamentaux a été enrichi, et c'est ce qui fait que cette constitution est plus généreuse en matière de droits fondamentaux. Et ensuite, pas seulement pour cette raison-là, c'est parce que aussi, sur certains droits classiques que nous connaissons comme le droit à la vie, le droit à l'égalité, il y a eu des améliorations parce que le droit à la vie a été affirmé de manière péremptoire d'une manière telle que la peine de mort qui figure dans le code pénal n'a plus de fondement constitutionnel. Le droit à l'égalité a été étendu jusqu'à la parité homme-femme. Et vous avez un certain nombre de droits économiques et sociaux qui ont été ajoutés, comme par exemple le droit à un logement décent, le droit à l'énergie électrique, les droits à l'eau potable, etc., etc. Mais beaucoup plus que ça, vous avez l'alinéa 2 de l'article 220 qui ajoute qu'aucune révision de la Constitution ne peut intervenir pour pouvoir réduire la liste des droits ainsi fixés, voire même les garanties fondamentales pour l'exercice de ces droits. Et donc il y a là un effet criquet qui fait que vous ne pouvez pas réviser la Constitution pour réduire les catalogues des droits fondamentaux. Vous ne pouvez pas légiférer à rebours pour retourner en arrière. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est la Constitution la plus généreuse, parce qu'elle est vraiment, comment dirais-je, riche en droits fondamentaux. En plus de ce qu'il y a aussi des garanties qui sont ajoutées, le pouvoir judiciaire a reçu la mission d'assurer la garantie des droits fondamentaux. Il y a d'autres mécanismes comme les institutions d'appui à la démocratie pour la protection de certains droits spécifiques. À partir de cette Constitution, on a créé une Commission nationale des droits de l'homme, chargée de la promotion de la protection des droits de l'homme. Mais il y a aussi d'autres garanties d'ordre procédural qui permettent d'assurer que les droits fondamentaux sont respectés.
Oui,
mais aussi, c'est une Constitution la plus consensuelle, ai-je dit.
Oui, vous l'avez,
c'est une Constitution qui a réalisé un compromis historique entre les antagonistes politiques dans ce pays sur la question de la forme d'État et du régime politique. Sur la question de la forme d'État, c'est la première fois que nous avons dans notre texte constitutionnel un compromis entre les fédéralistes et les unitaristes, parce qu'on a reconnu dans ces textes ni le fédéralisme ni l'unitarisme, mais un régime intermédiaire, une forme d'État intermédiaire qu'on appelle le régionalisme constitutionnel, qui répartit les compétences entre l'État central et les provinces, avec une large autonomie laissée aux provinces, avec une participation à l'exercice du pouvoir central. Et puis sur le plan du régime politique, vous avez un compromis qui a été réalisé entre les partisans du régime parlementaire et ceux du régime présidentiel, en ce sens que on a mis en place des mécanismes de collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui permet un véritable exercice des pouvoirs en duo, je dirais en collaboration, et qui évite qu'une des institutions ait plus de pouvoir que d'autres. Bon, certains trouveront toujours à redire sur ces régimes politiques, mais en tout cas, sur le plan politique, c'est la Constitution la plus consensuelle que nous avons aujourd'hui. Mais voilà. C'est une Constitution parfaite, je n'ai pas dit ça, c'est aussi une Constitution qui mérite d'être achevée. C'est un édifice qui peut être achevé, parachevé. D'abord, sur le plan de son écriture formelle, il y a beaucoup de coquilles rédactionnelles. Et il y a des articles qui méritent d'être réécrits sur le plan de la logistique seulement. Il y a aussi des articles qui, sur le plan du fond, posent problème, qui doivent être complétés. Mais tout est question de savoir quels sont les articles qui posent problème. Là, ça c'est une question que les politiques doivent solutionner. Parce qu'à partir du moment où on identifie effectivement des articles qui posent problème, la question qui restera, c'est celle de la procédure, celle de la méthode. Comment faire pour alors parachever la Constitution ou l'améliorer?
Oui,
alors, à ce sujet, la Constitution elle-même a prévu les mécanismes de sa révision. C'est aux articles 218 à 220. Et dans ces articles-là, il y a des matières qui sont révisables et d'autres qui ne le sont pas, à l'initiative d'un certain nombre d'autorités qui sont désignées. Alors, lorsqu'on prend l'initiative de réviser les articles révisables, effectivement, la procédure est là. L'initiative peut venir du président de la République, du gouvernement, du conseil des ministres, de la moitié des députés ou des sénateurs, d'une fraction du peuple composée de 100 000 personnes, et l'initiative vient au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, on examine le bien fondé. Si l'Assemblée nationale et le Sénat trouvent que l'initiative est fondée, eh bien la procédure se poursuit. Si en revanche l'une des deux chambres estime que ce n'est pas fondé, la procédure s'arrête.
Oui,
lorsque la procédure se poursuit, il y a deux voies.
Professeur.
La première voie, c'est que ça doit être soumis au référendum populaire.
Voilà, on va y revenir, hein. Mais vous avez dit qu'aucune révision ne peut être faite, n'est-ce pas, dans le sens de réduire de certains droits fondamentaux. Alors, que diriez-vous de la révision qui est intervenue en 2011, où on est passé de deux tours à un seul tour,
oui,
en ce qui concerne le scrutin présidentiel?
D'abord, de manière générale, on peut se réjouir qu'il n'y ait qu'une seule révision de cette constitution en 2011. Mais n'oubliez pas que cette révision, elle aussi a été problématique. Sur certains articles, on peut concéder que ça puisse avoir été réalisé de manière régulière, mais sur d'autres articles, on a effectivement violé l'article 220. Je ne prends ici, par exemple, que l'exemple des articles 197 et 198, où on a reconnu au président de la République le pouvoir de dissoudre les assemblées provinciales ou de relever les gouverneurs de province de leurs fonctions en cas de crise grave et persistante au niveau des provinces. Ça, c'est une atteinte aux prérogatives des provinces. Et la linéa 2 de l'article 220 interdit justement de réviser la Constitution pour réduire les prérogatives des provinces. Un autre exemple, c'est l'article 149 sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. On a élagué les parquets de l'énumération qui est à l'article 149 et donc on a privé les parquets de cette garantie nécessaire qui a été affirmée par la Constitution originale, à savoir que l'indépendance bénéficie à la fois aux cours des tribunaux et aux parquets y rattachés. Maintenant, si vous prenez l'article 70 où on a supprimé le double tour de l'élection présidentielle, effectivement, ça peut paraître comme étant un article qui n'était pas verrouillé. Mais en réalité, on peut se poser la question de sa pertinence au regard du principe du suffrage universel, à savoir que le président de la République est élu par l'ensemble du peuple. C'est vrai que le principe du suffrage universel n'a pas été, remis en cause comme tel, mais le fait qu'on ait passé de deux tours à un tour réduit quand même considérablement, comme l'a dit le collègue Lubanga tout à l'heure, la légitimité du président élu. Et donc, ça pose un problème.
Merci.
Voilà. Donc, merci. La révision a eu lieu en 2011. On peut se féliciter qu'il n'y en ait qu'une seule. Mais elle a quand même aussi porté atteinte à l'article 220 dans certaines de ses dispositions.
Merci, professeur Paul Gaspard Ngonankoy. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Et là, professeur Taylor Lubanga, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga, Désiré Sakodi.
Sakodi Pauni Désiré, depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, la constitution du 18 février 2006 reste le texte fondateur de la République démocratique du Congo et a su jeter les bases d'une véritable démocratie dans notre pays. Néanmoins, cette dernière contient certains articles qui méritent d'être revus car ils ne correspondent plus aux réalités actuelles du pays. Quant à l'évaluation à faire de l'application de la constitution de la RDC, 20 ans après sa promulgation, je pense qu'il y a lieu de constater les multiples violations qu'elle a subies et c'est notamment les coups d'État institutionnels portés par les régimes en place, avec la basculation de la majorité parlementaire en pleine législature orchestrée en 2021, l'organisation des élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2023 pendant plus ou moins 7 jours qui sont des actes contraires à l'esprit de cette constitution. Merci.
Professeur Taylor Lubanga.
Oui, merci beaucoup, Guy Maté. Merci. Je remercie beaucoup l'intervenant tout à l'heure et plus globalement et largement tous les co-débatteurs, le professeur Ngonankoy et les camarades général pour leur enrichissement. J'ai mis la présence des réflexions qui contribuent à la qualité de la plus grande réflexion nationale nécessaire aujourd'hui pour doter le pays de ce instrument nécessaire pour sa gouvernance. Eh bien, l'intervenant dit qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, changement de majorité au cours du mandat. Mais il ignore que le député a un mandat national. Un député, lorsqu'il est élu, il travaille pour la République. Il s'éloigne, ma foi, de pesanteur de son parti politique, de sa formation politique. Et lorsqu'il estime que les idées ou le développement, voire la protection des citoyens, va dans le sens à adhérer à une vision proposée et qu'il le fait, ceci ne peut pas être considéré comme un coup d'État.
c'est une option d'un député.
Même lorsque
c'est un esclave,
même lorsque la constitution ne prévoit pas cela.
Non, la constitution ne prévoit pas ça. Prévoit simplement que le député est libre de ses opinions et il jouit des immunités, des poursuites et des tours pour des débats parlementaires. On n'est pas député pour un parti politique, mais on appartient à un parti politique. On est député pour le peuple, mon Dieu. On est représentant du peuple, pas des partis politiques. Et la nuance doit être apportée à ce niveau-là. Le député est un député national, ayant un mandat national. Il n'a pas le mandat des partis politiques, quoique étant élu sur la liste d'un parti quelconque. Cette lecture est biaisée de voir aujourd'hui, au XXIe siècle, les gens continuent à penser que lorsqu'on est député élu sur la liste d'un parti politique, on est prisonnier de la vision, quoique parfois des structures des intérêts nationaux. Eh bien, parce qu'on est élu sur la liste, on doit pouvoir suivre. Non. Je pense que les députés ont suivi, ont écouté leurs bases respectives. Mais maintenant, est-ce qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel? Pas du tout. Il y a eu exercice démocratique. Il y a eu exercice de liberté des députés au regard d'enjeux nationaux. Mais maintenant, est-ce que, parce que l'on parle ici s'il faut ou pas réviser, si la guerre pouvait empêcher, et bien j'ai suivi. Mais on ne peut pas sacrifier la gouvernance des qualités parce qu'on est en guerre. Il faut bien interpréter la disposition qui interdit la révision constitutionnelle ou même les modifications constitutionnelles. Parce que de la modification, on peut aussi trouver la réponse à la guerre. Non mais parce que si nous prenons les faiblesses constitutionnelles d'aujourd'hui, qui par moments semblent ne pas permettre certains accords, certains pouvoirs constitutionnels, évidemment, l'on peut pouvoir se dire qu'en révisant ou en modifiant la constitution, on peut arriver à des solutions qui peuvent aussi être celles que la guerre recommande. Alors même penser à une quatrième république, pourquoi pas, pour voir si une nouvelle constitution ne peut pas être possible.
Merci professeur.
Une constitution qui serait fondatrice d'une nouvelle république, parce que vous savez, l'État congolais post-Berlin a échoué. Vous savez, l'État que nous avons, toutes les constitutions que nous avons connues dans ces pays sont des constitutions qui consolident l'État de la conférence du Congo au Berlin, qu'on appelle forcément la conférence de Berlin. Donc, conférence du Congo à Berlin.
Merci, professeur Taylor Lubanga. Nous allons donner la parole à maître Clément Mouza. Maître Clément Mouza, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville d'Uvira dans le sud Kivu.
Amani Kasali Placide, depuis la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Le Congo a été victime de cycles de violence et que cette constitution qui avait en son temps réuni des acteurs sociopolitiques et religieux serait mise en place pour permettre aux Congolais de ne plus jamais recourir aux violences. S'agissant de l'annonce du président Félix, la nécessité d'une nouvelle constitution n'est pas un tabou. Les lois doivent évoluer et la constitution elle-même n'exclut pas sa réforme, mais tout en respectant les principes de verrou. Renouveler la présente constitution afin de l'adapter aux circonstances sociopolitiques du moment n'est pas une mauvaise chose.
Oui, maître Mouza.
Oui, je trouve fondamentale l'intervention de notre ami Douvira. Je pense que nous devons nous référer toujours à cette constitution. Si au départ j'ai suivi le professeur Gaspard qui a parlé des questions importantes sur les droits de l'homme. Et il a parlé d'une cinquantaine d'articles. Au total, c'est 57 articles qui parlent directement des droits humains et des libertés fondamentales dans notre Constitution. Et s'il faut ajouter les 5 articles qui parlent de l'état des droits, notamment l'article 1er, l'article 2, l'article 10, l'article 64, et je pense l'article 149, c'est énorme pour un pays. Et lorsque notre ami Douvira parle de cette constitution comme un moyen aussi de mettre fin au cycle de violence, je suis d'accord avec lui, parce que la constitution est née, je l'ai dit au départ, est née d'un compromis politique entre les belligérants, l'opposition politique, et voire même la communauté internationale. À un moment donné, nous avons eu une certaine stabilité de cette institution, ou qu'il y a eu une, ce que je considérais comme étant une coexistence de forces politiques en présence. C'est justement grâce à cette constitution. Donc, il y a beaucoup de points positifs. Le problème avec ceux qui ont la passerelle du pouvoir, ou ceux qui étaient avant M. Félix, je cite le président Joseph Kabila, qui, lui aussi, pour protéger son pouvoir des individus, il a recouru à cette réforme de 2011. Pour moi, c'était vraiment de la mathématique politique. Une grande manœuvre politique dans le but tout simplement d'augmenter les chances de M. Kabila lors des élections. C'était une façon de protéger les pouvoirs. Donc, la mathématique politique visait en grande partie l'opposition politique. Il fallait diviser cette opposition pour que le candidat sortant, Joseph Kabila, puisse maximiser ses chances de gagner les élections. C'est-à-dire que nous souffrons un peu de cette constitution, ou de l'effectivité de cette constitution, ou de cette garantie nationale. Parce que les acteurs politiques veulent bien interpréter certains articles à leur goût. Merci. Ou en leur faveur.
Merci.
Pour conserver le pouvoir, ou chercher tout simplement à ce que les deux mandats ne soient pas effectifs.
Merci.
C'est le cas, notamment, je pense que le professeur Lubambala effleurait un peu. Parce que vous regardez ce qui est arrivé entre les FC Cash. FCC cash, avec ce changement de la majorité. Mais effectivement, c'était un coup d'État. Et aujourd'hui, lorsque M. Félix emboîte les pas de M. Joseph Kabila en déclarant, je pense qu'il l'a fait en 2024, qu'il pouvait être libre de modifier la Constitution ou de reviser cette Constitution, c'était quand même une déclaration politique très très grave.
Merci Maître Moussa. On a compris, on donne la parole au professeur Paul Gaspard Onakoy. Professeur Paul Gaspard Onakoy, vous allez réagir à la réflexion de l'éditeur qui appelle depuis Ubundu dans la province de la Tchopo.
La cité d'Ubundu dans la province de la Tchopo étant la base fondamentale où les lois, les règlements, les actes du gouvernement de notre pays se réfèrent pour prendre des décisions nationales et supranationales, les Congolais se sont mis autour d'une table pour rédiger la constitution en se référant des réalités que vivent les Congolais pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions et de la respecter dans tous ses articles. Certains Congolais estiment aujourd'hui que cette dernière ne répond plus aux réalités des Congolais, il faut la revisiter. D'autres par contre jugent que cette constitution répond toujours aux réalités des Congolais, sauf que ceux qui veulent la revisiter ont d'autres idées que celles qu'ils présentent aux Congolais comme nécessité. Moi,
professeur Paul Gaspard Ngonankoy.
Bon, je crois que aussi bien notre compatriote d'Ubundu que les deux autres qui sont intervenus avant, et même ici dans le cadre de notre débat, il ressort qu'il y a presque un consensus sur le fait que tout le monde reconnaît des mérites certains, mais aussi quelques faiblesses à cette constitution. Donc, toute la question de savoir si il faut améliorer ces faiblesses, comment procéder? Faut-il réviser, c'est-à-dire adapter certaines dispositions qui sont révisables, où il faut toucher jusqu'aux matières qui sont interdites. pense que la question la plus importante à ce niveau-là, si on passe par les critiques concernant le coup d'État constitutionnel qui aurait été opéré avec les changements de la majorité, je pense que nos amis du FCC eux-mêmes savent que le FCC n'avait pas présenté des candidats aux élections de 2008. Et c'était impossible de le faire parce que le FCC n'était pas un regroupement qui avait la personnalité juridique. Donc le FCC était un rassemblement de regroupements et de partis politiques qui, eux, ont la personnalité juridique et qui ont présenté des candidats aux élections législatives de 2018. Maintenant, lorsqu'il y a eu changement de la majorité, ce sont ces mêmes partis, ces mêmes regroupements qui ont fondé maintenant ce qu'on a appelé le FCC, le TASH plutôt, qui ont appelé le TASH. C'est un autre regroupement politique qu'ils ont créé sans aucune personnalité juridique non plus. Je me pose la question, se trouve le coup d'État constitutionnel. Parce que c'est quelle disposition de la Constitution qui aurait été violée en ce moment-là?
Oui, faudrait qu'on nous le montre.
Deuxièmement, en ce qui concerne...
On tend vers la fin de la mission, hein. C'est quoi votre mot de la fin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour...
Alors, mon mot de la fin, c'est que sur la question de la procédure, je pense que si on reste dans le cas des articles 218 à 220 de la Constitution, ni le Congrès, ni le peuple dedans ne peuvent procéder à un changement constitutionnel au point de toucher les articles 220. Nous, au Congrès, le Parlement n'a pas été élu pour ça. En revanche, si on veut d'une manière ou d'une autre revenir sous tel ou tel principe qui est à l'article 220, ou même augmenter les principes qui sont là, eh bien nous avons effectivement l'article 5 de la Constitution qui prévoit que c'est le peuple qui est souverain, il exerce son pouvoir directement, notamment par voie de référendum, mais cela suppose l'adoption préalable d'une loi qui fixe les conditions d'organisation du référendum.
Merci.
Ce que je fais comme député parce que j'ai déposé une proposition de loi à ce sujet.
Merci, professeur Taylor Lubanga. Votre conclusion.
Merci beaucoup, le professeur Paul Gaspard Mondankoy donne la solution à ce problème, qu'il faut faire l'usage intelligent et élitiste de l'article 5 de la Constitution, effectivement, en adoptant sa technique de loi référendaire. Je pense que c'est ce qu'il faut. La Constitution a des faiblesses, tout le monde le sait. Nous devons l'adapter, et donc pour l'adapter, on peut notamment recourir à la loi ou à l'article 5 qui reconnaît la souveraineté au peuple, mais on peut tout aussi, sans être les premiers à le faire, toucher quelques dispositions. Le président Kabila l'a fait. On ne peut pas toucher, parler du suffrage, de sanctions articles 220. Il a touché comme il voulait. Aujourd'hui, quand d'autres pensent toucher pour rétablir ce qui avait été détruit, on fait des reproches. Pourquoi les reproches aux uns? Non aux autres.
Merci, Maître Clément Mouza, votre mot de la fin aussi.
Oui, je dirais que notre constitution est globalement bon, mais mal appliquée. Je pense que, comme charpente de la République, nous devons tout faire pour consolider notre jeune démocratie, dans le sens de créer un véritable état des droits qui impose à toute personne de se conformer à la loi et que personne ne soit au-dessus de la loi.
Merci.
Ceux qui pensent à l'instant réviser la Constitution, je pense qu'ils doivent réfléchir deux fois parce que le peuple ne le laissera pas tranquille.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Paul Gaspard Ngonankoy, professeur Taylor Lubanga et maître Clément Mouza. Merci aussi à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Dieudonné Nyangassa et Pierre Diassino qui était à la technique, et à Chembe et Loku qui a assuré, n'est-ce pas, les lives de cette émission. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Kati.